Faire de bruit. Parce que monsieur, quand il revenait des boulevards ou du théâtre, je n'en sais rien, il était minuit généralement. Et il écrivait toute la nuit. Il écrivait jusqu'à 6h ou 6h30 du matin. Il dormait jusqu'à 11h. Alors, fallait faire aucun bruit. Et personne ne parlait. Alors, et ça vous semble extraordinaire, surtout lorsque vous avez travaillé ailleurs, de voir que c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant.
C'est un monde extra-humain et en même temps, c'est un monde nourri par des sentiments très humains, peut-être très noirs, sûrement, mais la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de peut-être même de l'âge adulte, qui est manifeste dans un certain nombre de ces séquences narratives, notamment dans Locus Solus. Pourquoi met-il en scène, au centre de cette œuvre, cette serre froide dans laquelle 8 cadavres vont rejouer perpétuellement l'instant fort de leur existence, comme une sorte de théâtre presque du Grand Guignol, si on veut. Il y a là quelque chose d'en effet à la fois un peu glacial et en même temps très saisissant.
Martial a présenté à l'âge de 19 ans, pendant 5 ou 6 mois, un état mental qu'il juge lui-même extraordinaire. S'intéressant à la littérature qu'il préférait à des études poursuivies jusque-là, il avait entrepris d'écrire un grand ouvrage en vers et voulait le terminer avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Comme ce poème devait comprendre plusieurs milliers de vers, il travaillait assidûment, presque sans arrêt, le jour et la nuit, et n'éprouvait aucun sentiment de fatigue. Il se sentit envahir peu à peu par un étrange enthousiasme.
La doublure, c'est son premier roman, écrit, dit-il, dans une grande euphorie, voire un enthousiasme digne de celui de Descartes, puisqu'il éprouve, dit-il, une sensation de gloire absolue au moment où il écrit cette doublure et ressent physiquement cette gloire en disant « je crains que les rayons, des rayons de lumière partent de ma plume et illuminent le monde, donc je suis obligé de fermer les volets pour éviter que la foule s'abatte sur la maison ». Donc c'est une expérience extrêmement décisive, suivie très rapidement d'un grand choc, puisqu'au moment où le volume paraît au mois de juin 1897, il se dira précipité du haut d'un sommet de gloire, et il va connaître à partir de là une sorte de déception qui ira jusqu'à la fin de son existence.
Quand Roussel écrit, il pense, il a le sentiment d'avoir eu la gloire, de connaître la gloire universelle. C'est comme si, dit-il, je ne sais pas les termes exacts, mais c'est comme si j'avais trouvé le filon merveilleux. Quand même, prêtez attention, ce n'est pas n'importe quoi. Et s'il est sûr, qu'est-ce que c'est que ce filon? Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Un raconteur d'histoire fantastique, surprenant, dérangeant parfois, et très énigmatique, dérangeant parce qu'il nous entraîne dans des zones un peu incontrôlées. Hein. Dans Locus Solus, il y a cette bande de brigands qui dansent sur le corps d'une petite fille, hein, et qui danse pas n'importe quoi, ils dansent une danse de salon, hein, tout à fait élégante et guillerette. C'est une mise à mort assez inattendue. Et c'est dérangeant parce qu'il y a la conjonction de l'horreur, hein, de la mise à mort de ce bébé, et d'une réalité, la danse de salon, hein, qui est en principe exécutée entre gens élégants du meilleur monde, bah, la superposition des deux crée une sorte de déflagration insupportable.
La perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire.
Du monde. En même temps, certains y voient un artiste d'avant-garde. On a pu y voir la personne qui a pu susciter le nouveau roman. Alors que dire ?
Il est d'une indépendance absolue. Il nous dit qu'il a des maîtres à écrire, par exemple, qui sont Pierre Loti et Jules Verne, mais ce qu'il produit n'a, on connaît, guère de rapport avec les romans de Jules Verne, de Pierre Loti, où le théâtre, pour lui, l'idéal au théâtre, c'était de Rostand. Son théâtre a peu de rapport avec ça. Mais je crois que c'est un homme absolu. Donc il va jusqu'au bout de ses idées dans une liberté complète. Donc les critères habituels de l'esthétique ne fonctionnent pas.
La particularité de l'Afrique de Roussel, c'est une Afrique totalement imaginaire où les Africains sont des amateurs de Shakespeare et parlent comme dans un salon du 16e arrondissement, mais les monstres, ce sont les Blancs. Les monstres, c'est cette troupe de cirque qui, en route vers l'Amérique du Sud sur un bateau, échoue au large des côtes du Ponukele. Et se retrouve otage du roi Talousset, et qui, s'ennuyant en attendant l'arrivée de leur rançon, décide de monter des sortes de spectacles.
On peut pas.
L'amputation fut jugée nécessaire. L'Elgualc averti envisagea la situation avec courage et, ne songeant qu'à en tirer le meilleur parti, pria simplement l'opérateur de lui garder son tibia, dont il comptait faire un usage mystérieux. On agit selon son désir, et certains jours, le pauvre amputé, orné d'une jambe de bois toute neuve, se rendit chez un luthier auquel il remit, avec des instructions précises, un paquet soigneusement enveloppé. Un mois après, l'Elgualc reçut dans un écrin noir doublé de velours l'os de sa jambe, transformé en flûte étrangement sonore. Le jeune Breton apprit vite le doigté nouveau et commença une carrière lucrative en jouant les airs de son pays dans les cafés-concerts et dans les cirques.
Il a reformuler un petit peu son époque de façon cryptée, si l'on veut, donc au moment où se recompose en quelque sorte le paysage littéraire, à sa façon singulière, en franc-tireur en quelque sorte, Roussel va entrer dans cette problématique de la recomposition du paysage littéraire français. D'ailleurs, les surréalistes, peut-être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais vont rapidement considérer que l'œuvre de Roussel est une œuvre importante. Il y a la production d'un imaginaire inattendu qui dépasse de loin ce qu'on avait pu lire jusque-là. Il a perçu quelque chose qui serait sous la forme d'une énergie contenue dans l'écriture poétique, dans le vers rimé. À un moment précis où, justement, il y a en France, vers la fin du siècle, il y a un débat très fort sur la question du ver libre. Et Roussel a choisi son camp, en quelque sorte, en essayant de régénérer, me semble-t-il, le ver classique, l'alexandrin.
Mais qu'il détruit.
Et qu'il, je dirais plutôt selon la formule de Mallarmé, qu'il va creuser pour tenter de voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour tenter de réduire la distance qui existe entre les mots qui riment et qui sont là uniquement pour des raisons phonétiques. Et à ce moment-là, le vers va se rapprocher de la prose, c'est-à-dire que Roussel va tenter une expérience assez inédite, me semble-t-il, de dépasser la frontière qui existe entre le vers et la prose.
Pour pas.
Oui, il y a. Oui, il y a.
Une des difficultés qui a été la mienne, d'abord en prenant contact avec les textes de Roussel, puisque j'allais à la Bibliothèque nationale aux manuscrits pour chaque jour pour découvrir ça, et c'était quand même un moment extrêmement merveilleux. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que au bout de 2-3 heures, je tenais pas physiquement, parce que j'avais l'impression d'étouffement. C'était comme si j'étais dans un milieu, je manquais d'air vraiment. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, c'est parce que j'ai pénétré dans un monde où tout est en équilibre instable, comme Roussel, et que les formes, la forme pour lui de trouver la forme, aussi bien la forme que doit lui donner sa pratique du dandisme, que le procédé, la rime même, c'est quelque chose qui permet d'éviter le déséquilibre. Et c'est comme si on pénétrait dans une construction de vers filés. Et du coup, moi aussi, j'étais obligée de me tenir à carreau, si je puis dire. Il ne fallait pas que je fasse un mouvement de trop, sans ça tout s'écroule. De ce fait, j'ai l'impression que beaucoup d'interprétations de Roussel ont été faites parce qu'on n'a pas vu la fragilité du matériau. Il faut faire très attention pour ne pas aplatir cette chose, qui est quand même de l'ordre du merveilleux.
Mais ce n'est pas un peu une course vers l'abîme ou vers
le
néant ?
Complètement. C'est complètement une course vers l'abîme.
La perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune lecteur qui aborderait l'œuvre de Roussel aujourd'hui ?
D'être très prudent. Je pense que ça peut être extrêmement perturbant.
Mais quel est le risque ?
Le risque, c'est d'aborder une œuvre totalement perturbée elle-même et dont on n'arrive pas à penser quoi que ce soit. Je conseillerais la prudence.
Vous aimez les œuvres perturbantes ?
Oui. Oui, en grande partie parce que une œuvre qui n'est pas perturbante, finalement, ça n'est pas grand-chose.
Plus en plus solitaire. Et il avait une horreur maladive du téléphone. Et il y avait une règle, son valet de chambre avait l'ordre de répondre toujours qu'il était en voyage. Mais il y avait un mot de passe. Ce mot de passe était « Est-il au Dahomey ou au Mozambique ?» Si on répondait ça, il disait oh, « Je vais voir s'il n'est pas revenu », disait le valet de chambre.
Un homme passa.
Il était malin et tout son corps brûlé par le soleil et par cet tendement dû à la verticale pour supporter le poids d'un panier de cacahuètes enrobé de pralines.
Il
s'arrêta, regarda Adam, dit quelque chose, puis il retourna en sens inverse sur la plage. Il avait un léger mouvement circulaire des orteils, de gauche à droite. Il avait un léger mouvement circulaire des orteils, de gauche à droite. Adam vit qu'il posait les pieds bien à plat sur le galet et qu'avant de laisser le reste de son poids s'appuyer sur ses jambes, il avait un léger mouvement en circulaire des orteils de gauche à droite. Il assurait sans doute que le sol était libre d'obstacles. L'homme s'éloignait de la sorte, doucement, au milieu des amoncellements de corps, avec une dignité imprévue, et jetant de minute en minute son cri insensé. Mm-hmm. avec une dignité imprévue. Et je t'en demande donc il y a un sens.
Let.